Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 d'Opson.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
Bonjour, c'est l'histoire de deux blondes qui regardent la lune la nuit, donc la lune qui est éclairée. Donc il y en a une qui demande à l'autre, est-ce que tu crois qu'il y a du monde sur la lune ? À l'autre, tu réponds, bien sûr. Alors, comment tu peux être aussi certaine de toi ? Oui, donc elle lui dit, regarde, tu vois bien, c'est éclairé.
Harcèlement. Longue journée. Fatigue, abus, t'arrives pas à la retraite, maladie professionnelle, accident, stress, pression, troubles musculo-squelettiques, cadence et décadence, burn-out, gestes répétitifs, travail à la chaîne, labeur, labour, torture, aliénation, suggestion, loi chômage, productivité, vive les vacances, exploitation, dépression, esclavage moderne, métro, boulot, cerveau, servitude, handicap, conditions de travail, code du travail. Vous l'auriez compris, tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale. Bref, le travail use et c'est pénible. D'après la sainteté Wikipédia, la pénibilité au travail est définie par l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Pour répondre à nos questions sur ce thème de la pénibilité au travail, nous recevons aujourd'hui M. Thierry Philippot, ancien délégué syndical CGT de la société Emeril, à présent conseiller au Prud'homme de Louviers.
Eh bien, au sommaire d'aujourd'hui, nous aurons une interview travaillée au corps et à cri, des lectures produites sous contrainte à l'atelier clandestin du Point Nemo, des musiques acouphoniques, un micro-trottoir laborieux de plein air, un narvalo abusé comme jamais, une minute du pôle accablante, une petite cuisine accidentogène. Pour vous servir aujourd'hui, Rémi, Adrien, Didier, Karim, Séméré, Stéphane, François, Yacouba, Bakary, Gaëtan, Adia, Marilou, Timothée, Béatrice, Sandrine et Vivien. Et ceux qui ne sont pas là se reconnaîtront.
Wesh, ça va mon pote ? Je reviens direct des States, et là-bas ils ont toujours au moins 10 ans d'avance sur nous. Alors regarde un peu ce que j'ai ramené. C'est un truc de malade. Aux USA, ça cartonne à mort. Je te dis, dans 10 ans, tout le monde en aura en France. C'est un... Quoi ? Ouais, c'est ça, c'est un iPhone. Comment mec ? Tout le monde en a déjà en France ? T'es sérieux là ? Bah fuck, comme ils disent là-bas. Tu veux dire que j'ai été aux States pour rien ? Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis même choqué. Vite ! Il me faut une cellule de crise. Je vais craquer. Je suis au bord d'un burn-out dépressif de la tourette, putain de merde. Comment ? Un bon voyage aux États-Unis ? Ah, tu rigoles, j'espère. C'est l'horreur là-bas. À peine descendu de l'avion, ils m'ont enfermé dans une salle et ont commencé à me poser des questions trop cheloues. Du genre, est-ce que je suis un communiste musulman ? Est-ce que je viens pour détourner un avion ? Est-ce que je mange du camembert ? Et puis, là-bas, ils ont tous des flingues. C'est des malades, les gars. C'est tous des chasseurs, mais ils chassent pas le lapin ou le canard. Non, non, là-bas, les flics chassent les Noirs et les Texans, ils chassent les Mexicains. Mais les pires, c'est les lycéens. Quand ils sont vénères, ils tuent tout le monde dans leur lycée. Et puis, je te parle pas de leur président. C'est un gros psychopathe. Et tout ça pour te ramener un bout de rêve américain que tout le monde a déjà ici. Quoi ? Et en plus, leur rêve américain, il est fabriqué en Chine. Bon, bah la prochaine fois, j'irai en Chine. Je suis sûr que là-bas, ils sont plus tolérants.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur.
Ah, 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 oui.
D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. La, 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 yeah.
Merci, patron.
Merci, patron.
Merci, patron.
Merci, patron.
De travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah, 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 ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
Laïdila, laïdila, yeah. Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux. Un jour Dieu vous le rendra.
Oui, c'est ça.
Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Oui.
Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron.
Light it up, light it up, nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons.
À vous le plaisir de travailler pour nous,
vous serez heureux comme un fou.
Nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons.
Ce que vous avez fait pour nous,
nous le referons pour vous.
Et il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah bah si. Et mon, mon patron, il change de costume 2 fois par jour.
Et voilà, et nous venons d'écouter Merci Patron des Charlots.
Nous recevons aujourd'hui Monsieur Thierry Philippot, ancien délégué syndical CGT de la société MRIL ou MREAL. Et à présent, conseiller au Prud'homme de Louviers. Alors, d'abord, bonjour, monsieur.
Bonjour.
Pouvez-vous nous préciser votre fonction au sein des Prud'hommes ?
Alors, je suis président du conseil des Prud'hommes de Louviers. Je suis dans la section industrie.
On a un petit souci de micro. Voilà. François.
Pouvez-vous nous préciser, en fait, pour la pénibilité, comment l'évaluer et la mesurer ?
Alors, comment l'évaluer, la mesurer ? La pénibilité, vous savez, c'est quelque chose dont on parle, les organisations syndicales, en particulier mon organisation syndicale, depuis de nombreuses années. La pénibilité, c'est aujourd'hui, vous êtes dans des entreprises à feu continu, ce qu'on appelle à feu continu, les gens qui travaillent en équipe depuis des années, qui passent même 40 ans de leur vie, toute leur carrière, à travailler soit de nuit, soit par des rythmes en 5-8, de façon continue. Et même les études ont été menées que ça rabaisse le temps d'espérance de vie considérablement, voire de 10 ans. Et donc la pénibilité, elle existe dès l'instant que vous allez à votre travail aujourd'hui par les conditions de salaire déjà, parce que c'est plus vous avez un salaire qui est dérisoire, plus vous avez un boulot qui est pénible. Et en plus, très souvent, un employeur qui est pénible aussi. Je veux dire, tout est en corrélation.
Alors, En quelle année est apparue cette notion de pénibilité du travail ?
Alors, c'est en 2014 qu'il y a eu cette loi, c'est dans le cadre des réformes de retraite, où à l'époque, l'État avait dit, voilà, donc on va prendre en compte la pénibilité, ce qui était un grand mot, parce que ça ne correspond pas du tout à nos attentes. On a fait un système de compte personnel de pénibilité qui sera par un système de points qui est applicable à partir du 1er janvier là, 2017. Et donc, dans ce compte de points, vous pouvez espérer tout au plus gagner quelques trimestres, mais les conditions pour comptabiliser ces points vont être livrées à des accords entreprises, c'est-à-dire dans les entreprises déjà de plus de 50 salariés. Il y aura des accords qui seront faits avec ce qu'on appelle un peu hypocritement parfois les partenaires sociaux, parce que vous avez aussi les employeurs qui font partie des partenaires sociaux. Et moins de 50 salariés où il n'y a pas de représentativité, ce sera sous la libéralité de l'employeur. Et donc dans ces déclarations, chaque année, ce qu'on appelle les DADS, il établira ce compte de points qui peut vous faire gagner quelques trimestres ou espérer avoir plus tard un temps partiel pour le même salaire que sur un temps plein.
Pardon, je vous coupe. Mais
non, je vous en prie.
Donc, ce n'est pas la loi qui définit ce qui est pénible ou pas ?
Voilà, ce n'est pas vraiment la loi qui va... Ça va être un peu mis sous la libéralité, comme je vous le disais, des employeurs. Et après, des accords. Alors après, il y aura le combat dans les entreprises, là où il y a vous avez des sociétés de plus de 50, avec des délégués du personnel qui font leur boulot, avec un bon CHSCT, etc. Il y aura un combat qui pourra être mené à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir dire, voilà, il faut reconnaître tel atelier. Là, on travaille dans la poussière depuis des années, on est des scieries, par exemple, etc. Et puis, après, il y a les entreprises où l'employeur dira, ben moi, non, ici, c'est un arbre lopé, il n'y a pas de problème, tout va très bien, les conditions de travail sont respectées. Voilà, on va avoir un peu, des fois, n'importe quoi, comme on peut avoir, oui, dans certaines entreprises, grosses structures, où il y a des bonnes organisations syndicales, des accords qui seront peut-être, sans doute, intéressants.
Au niveau de la pénibilité du travail, parle-t-on de pénibilité physique ou est pénibilité morale ?
Alors, déjà, le Code du travail dit que l'employeur, vous savez, il y a depuis quelques années une obligation de résultat en matière de sécurité. C'est-à-dire que l'employeur, il y a pas mal d'années, était tenu une obligation de moyens, mais pas de résultat. Maintenant, il est tenu à une obligation de moyens et de résultats. Il doit veiller à la santé morale et physique de ses salariés. Donc, bien évidemment, dans la pénibilité, il y a l'aspect mental. D'ailleurs, vous avez des problèmes de harcèlement moral aujourd'hui où des gens ont été tellement détruits qu'ils se remettent en cause même pour retrouver un travail. Ils n'osent même plus aller voir un employeur dans un entretien. Et ils sont traités depuis des années pour dépression nerveuse suite à un harcèlement qui a duré pendant de nombreuses années. Et pas beaucoup de personnes le font, mais c'est d'aller après faire reconnaître cette maladie en maladie professionnelle. Parce que, et aller même sur la faute inexcusable de l'employeur pour l'avoir mis dans cet état. Et c'est des démarches qui sont des démarches juridiques, très longues, très dures et coûteuses aussi pour ceux qui ne bénéficient pas forcément de l'aide juridictionnelle. Mais par contre, oui, l'aspect moral doit rentrer dans la pénibilité, c'est évident.
Oui, enfin, je me souviens de France Télécom ou d'autres où il y a même eu des cas de suicide au travail.
Oui, vous savez, on est dans un département, on parlait d'Emeril, une usine qui a fermé. Heureusement, ça a été repris par un groupe thaïlandais, mais vous avez des sociétés, des industries autour de nous qui ont fermé les unes derrière les autres. Mais on n'imagine pas les dommages collatéraux quelques années après, les suicides, parce que ça, on n'en parle pas. Mais vous avez des entreprises où, déjà des entreprises qui n'ont pas besoin de fermer pour qu'il y ait des salariés qui se suicident suite à des mauvais traitements qu'ils ont à leur travail. Mais derrière ça, c'est tous les dommages collatéraux qu'il y a derrière. Et vous avez de nombreuses personnes, malheureusement, dans des fermetures d'entreprises. Quelques années après, ben on s'aperçoit 3 ou 4 collègues de travail qui se sont suicidés. Et voilà, comme on a eu le cas dans l'entreprise où je travaille, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui n'a pas été repris, qui était sur le carreau, et on a appris, voilà, il y a un mois et demi, qu'il s'était suicidé.
Mmh. Alors, excusez-moi, je vais lancer. On va écouter maintenant un micro-trottoir qu'on a réalisé dans les rues d'Evreux, où on a demandé quelles étaient les conséquences du travail pénible.
Quelles sont les conséquences du travail pénible ?
C'est la fatigue, c'est la lassitude et probablement aussi l'ennui pour de certains métiers.
Écoutez, j'ai connu un artisan, par exemple, maçon, qui à force d'être à genoux, etc., à 50 ans, il ne pouvait plus marcher, il avait les genoux complètement sclérosés.
Ou alors les charges lourdes, parce que les charges lourdes, les gens, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont mal dans le dos, et puis finalement, effectivement, à force, ils s'escrètent la colonne vertébrale, quoi.
Ben, les gens sont fatigués, stressés quand même, hein, sur les nerfs, hein, parce que c'est pas facile d'avoir un travail pénible comme ça tous les jours.
La fatigue, mais bon, on est habitué, donc on n'y pensait pas. Hein.
Pour la santé en vieillissant, les mal de dos, tout ce qu'on veut bien.
Alors, je vais vous demander une réaction sur ce qu'on vient d'écouter.
Oui, bah complètement. On retrouve tous les facteurs qui doivent être pris en compte justement dans le cadre de la pénibilité au travail. C'est-à-dire que l'employeur devra prendre en compte, bon, je parlais du travail en équipe, travail posté, etc. Mais ça va être les gens qui sont soumis, c'est dans la liste, aux vibrations, je pense. Les gens dans les TP qui sont au marteau-piqueur toute la journée, sur des engins de chantier, comme les gens qui sont dans la manutention. Notamment aujourd'hui, on a beaucoup de pôles d'expédition, de logistique, où il y a énormément de manutention, préparation de commandes, etc. Et donc ça, on a parlé dernièrement aussi des caissières avec les gestes répétitifs, et tout doit être pris en compte dans la pénibilité. Mais le combat qu'on doit mener et qu'on doit continuer à mener, c'est d'avoir une retraite. On parle de faire un compte avec des points. Non, c'est quand il y a une reconnaissance d'un salarié qui a travaillé dans des milieux difficiles, pénibles. On parlait dans ce micro-trottoir des maçons qui travaillaient à genoux, etc. C'est de ne pas avoir une retraite à 62 ans, parce qu'on sait que beaucoup de ces personnes ont les genoux qui sont complètement bousillé à l'âge de 50 ou 52 ans avec quelques maladies suite à la manipulation de produits comme le ciment, etc. C'est d'avoir une retraite décente à l'âge de 56 ans, voilà, qu'ils partent en retraite bien avant l'âge de prévu qui est 62 ans, parce qu'ils sont usés.
Qui est concerné par la pénibilité au travail ? Les hommes, les femmes, les groupes professionnels ?
Ben moi, je vous dirais, les hommes comme les femmes, on parlait du problème d'harcèlement. J'ai remarqué, après plus de 20 ans passés au Prud'homme, que les problèmes d'harcèlement, malheureusement, une fois de plus, ça touche plus souvent les femmes que les hommes. Mais bien que les hommes sont touchés, et notamment dans la définition même du harcèlement sexuel, c'est à 99,9%, même 100%, les femmes qui sont touchées dans ces affaires de harcèlement sexuel. Mais je veux dire, c'est tous les salariés qui sont touchés. Comme je vous disais, il y a des entreprises, des fois, qui emploient beaucoup plus de femmes, parce que l'activité, on va sur des pôles pharmaceutiques par exemple, où c'est beaucoup plus de femmes qui sont employées, et d'autres usines en feu continu, c'est beaucoup plus d'hommes, etc. Mais comme on parlait de la maçonnerie, alors je dirais que dans la pénibilité, tout le monde est touché par la pénibilité au travail, tous les travailleurs et travailleuses sont touchés.
Alors bon, mettons pour moi cette question, est-ce que par définition tout travail n'est pas pénible?
Oui.
Oui.
Oui, tout travail est pénible, je veux dire, comment... Alors, il y a des travaux beaucoup plus pénibles que d'autres, mais comme je disais tout à l'heure, plus vous avez un travail difficile, plus vous avez un boulot de merde, voilà, vous êtes mal payé, vous avez le salaire qui est en adéquation, et très souvent le patron qui est en adéquation aussi, parce qu'on vous fonce dedans tout le temps, vous devez être toujours... Là, vous prenez par exemple la grande distribution pour causer, en donnant un coup de main à tenir au sein de mon syndicat la permanence juridique des gens qui viennent nous voir, où ils ont été, où elles ont été licenciées, bah vous vous apercevez là où elles devraient être. Trois, elles sont que deux. Et c'est court, court, court. On ne prend pas les pauses. Ou la pause, ça va être sa petite clope. Là où vous avez un quart d'heure de pause, ça va être 3 minutes. Et vous avez tout de suite votre petit chef Aillon qui arrive avec sa montre et qui vous demande de retourner au boulot. Donc, et après, vous avez aussi aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une population de cadres est aussi touchée par des problèmes aussi au sein de leur travail. On leur demande toujours plus. Ils n'ont plus de vie de famille. Voilà. Et toutes les catégories, je dirais, socio-professionnelles sont quand même touchées aujourd'hui. Et la pénibilité, elle touche tout le monde.
Oui, ce qui n'est pas forcément évident. Enfin, a priori, on ne se dit pas que ça touche tout le monde.
Non, mais vous avez, comme je disais, pendant des années, on le voit par exemple au Prud'homme. On n'avait pas beaucoup d'affaires dans les sections encadrement. Il y avait peu d'affaires, voilà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit même au harcèlement moral, ça touche les cadres parce qu'on a des affaires d'harcèlement moral qui sont portées devant les conseils dans les sections encadrement. Et alors, je n'ai pas les statistiques, mais on sent qu'il y a quand même une montée.
À propos du harcèlement moral, est-il difficile de le prouver vis-à-vis du... Enfin, Vous avez raison. Un salarié vis-à-vis de son patron.
Et bien sûr, votre question, vous avez raison, c'est une question pertinente dans le sens où toute la difficulté que va avoir le salarié ou le salarié, ça va être la charge de la preuve, apporter la charge de la preuve devant les juges, commencement de preuve, pour pouvoir établir qu'il y a bien eu un harcèlement moral. Et comme moi je dis toujours, un bon harceleur est un bon salopard et quelqu'un d'intelligent. Il ne va pas s'entourer de 10 témoins ou 3 témoins autour de lui pour faire ses saloperies. Il va aller directement, lorsqu'il se retrouve tout seul avec sa salariée ou son salarié, et c'est là qu'il va agir. Et donc, le salarié se trouve tellement abattu, il va lui falloir du temps avant de parler après à son médecin, après au médecin du travail, etc., au délégué. Mais très souvent, elle se réfugie complètement dans le silence.
Alors, qu'apporte la reconnaissance de la pénibilité ? Vous avez parlé des retraites, est-ce que... Ça peut toucher autre chose.
Aujourd'hui, c'est une toute petite reconnaissance de rien. On a voulu répondre à des mouvements syndicaux, on a voulu répondre à une demande qui était très forte sur la reconnaissance de la pénibilité. On avait commencé à le reconnaître avec l'amiante. L'amiante, par exemple, où des salariés qui ont travaillé dans des milieux amiantés peuvent prétendre à partir en retraite avant. Mais nous, ce qu'on demande, c'est une véritable retraite. Ce n'est pas de comptabiliser des points, ceci, cela. Quelqu'un qui travaille en équipe, qui a fait 20 ans de quart en continu, il n'y a pas besoin de comptabiliser des petits points, des machins, des ceci, des cela. C'est une reconnaissance qui doit permettre aux salariés de pouvoir partir à la retraite avant l'âge. Les femmes qui travaillent de nuit, parce qu'on a quand même remis le travail de nuit pour les femmes qui avaient été supprimées, qui étaient remis, et ben lorsqu'on sait que ces personnes-là ont travaillé des nuits, de nuit pendant plusieurs années, c'est une reconnaissance d'office de la pénibilité. On ne doit pas comptabiliser des petits points pour dire à la fin, vous avez gagné 8 trimestres.
Comment peut-on expliquer que le travail pénible existe toujours de nos jours ?
Il existe toujours parce que voilà, depuis des décennies, depuis la nuit des temps, on n'est qu'une force de travail aux yeux du patronat en général. Et donc, voilà, la pénibilité au travail, comme je vous disais, c'est où on tire des profits aujourd'hui, on va le tirer sur le produit qu'on va vendre, mais on va vouloir le tirer sur les salaires, sur les salariés. Et donc, plus on descend la masse salariale, plus une rentabilité aussi pour eux. Donc, comme voilà, là où, et d'ailleurs, malheureusement, on le retrouve même dans le public aujourd'hui, dans la fonction publique, des services où il y avait 4 personnes, ils se retrouvent à 2, voire à 3, à absorber le même travail, voire plus de travail. Et donc, c'est pour ça qu'on a un service, des fois public, qui n'est plus de qualité, non pas de la faute des salariés du service public, mais de la faute de qui ? De ceux qui dirigent ces services publics, qui sont sans arrêt en train de dire qu'il faut supprimer du personnel, avec donc des cadences de travail beaucoup plus difficiles.
Alors, je vais revenir un peu sur le thème du micro-trottoir, c'est sur vraiment les conséquences du travail pénible. Donc, vous avez un peu évoqué qu'elles n'étaient pas que physiques. Et donc, qu'est-ce que vous voyez le plus, en fait, les conséquences ?
Je dirais qu'on voit les deux. On voit l'aspect, la pénibilité sur des gens qui ont été détruits psychologiquement, mais également qui ont été détruits physiquement. Il y a les deux. Vous avez des personnes aujourd'hui qui se retrouvent en inaptitude du jour au lendemain parce qu'ils sont usés par le boulot. Ils sont inaptes à tout poste dans l'entreprise. Et puis voilà. Et après, ils vont être licenciés pour inaptitude. Ils sont usés. Leur état médical ne leur permet plus après de trouver de travail par rapport à la formation qu'ils ont d'origine. Et donc, ça devient très compliqué pour eux. Mais voilà, encore une fois, ils sont usés par quoi ? Ils sont usés par le travail.
Et comment peut-on faire face au travail pénible ?
Alors, faire face au travail pénible, malheureusement, comme je vous disais, si vous êtes dans une société qui est bien structurée, avec un bon CHSCT qui fait le nécessaire, qui veille aux conditions de travail des salariés, etc., vous pouvez là combattre. Mais quand vous êtes dans des petites structures où il n'y a personne, il n'y a aucune organisation, si l'employeur ne fait pas le nécessaire, on ne peut rien faire. Vous avez des entreprises, d'ailleurs, il faut savoir quand même sur le compte pénibilité, il y a une chose, c'est que pour que vous ayez cette petite notation pour récupérer des points, il faut avoir plus d'un mois d'ancienneté, il faut avoir des contrats de plus d'un mois. Donc, on va exclure déjà une partie de la population salariale, c'est-à-dire les intérimaires et les CDD qui se baladent de petits contrats en petits contrats. Pour eux, c'est niet, il n'y a que dalle. Donc, je veux dire, la pénibilité, vous avez des entreprises aujourd'hui qui ont des effectifs qui tournent à 40% de leur effectif en continu avec des intérimaires, etc. C'est des gens qui cherchent du boulot, qui acceptent tout parce qu'ils sont dans la précarité, ils n'ont pas de pognon et donc, on leur propose un boulot où les conditions de sécurité ne sont pas réunies, où c'est pénible, et ils le prennent, ils le font, parce que ils n'ont pas d'autre solution.
Quelles sont les actions de prévention, les incitations à modifier les conditions de travail et les sanctions?
Alors, les actions de prévention sur les conditions de travail, encore une fois, dans des entreprises, il y a des élus qui font leur boulot et qui font des actions au travers les organisations représentatives du personnel. Donc là, il y a un boulot qui est fait sur tout ce qui est prévention. Dans les entreprises qui sont complètement démunies, les petites entreprises de moins de 11 où il n'y a pas de représentativité, plus de 11, très souvent, on retrouve des procès-verbaux de carence parce que personne ne se présente aux élections, donc il n'y a rien. Donc c'est l'employeur, c'est lui. Mais maintenant, l'employeur, il sait aussi qu'il faut qu'il fasse très attention parce qu'en cas d'accident du travail, en cas de problème, de maladie professionnelle, il doit veiller à la sécurité de ses salariés. Il a une obligation, non pas de moyens, mais de résultats.
Alors, on sait qu'il y a eu des modifications des lois sur le travail récemment. Est-ce que vous observez déjà des effets?
Bien sûr, il y a déjà des effets entre la loi El Khomri et la loi Macron. Oui, complètement. Ne serait-ce qu'au prud'homme. Tout à l'heure, j'étais avec un de vos collègues là pour discuter sur un avis d'aptitude au travail ou d'inaptitude. Avant, lorsque vous étiez contre l'avis d'aptitude ou d'inaptitude délivrée par le médecin du travail, vous le contestiez où? Devant l'inspection du travail, devant le médecin inspecteur. C'était gratuit. Aujourd'hui, la loi Macron, mais ça, on n'en parle pas, c'est des détails importants. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il faut que vous saisissiez le conseil des prud'hommes. Mais en tant que juge prud'homal, vous ne pouvez pas changer la vie d'un médecin. Vous n'êtes pas toubib. Donc, vous êtes obligé de désigner un médecin expert auprès des tribunaux. Donc, la personne vient contester. Et puis voilà, pour dire, moi non, on m'a mis inapte, je veux être apte. Et bien derrière, elle passe au prud'homme en référé. Le prud'homme va désigner un médecin expert auprès des tribunaux, mais le médecin expert, il faut provisionner l'argent. Qui est-ce qui va le payer? C'est la partie qui va succomber. Admettons que le médecin expert rende le même avis, le salarié perd, et doit payer l'expertise médicale. Et ça, ça passe inaperçu. Ça passe complètement inaperçu. Et en plus, ce qu'a fait. Après, on va aller un petit peu en mettre une couche à Mme El Khomri. Vous avez les accords entreprises. Aujourd'hui, ça va être. On est en train de remettre en cause des décennies et des décennies d'acquis sociaux, notamment sur les conventions collectives, etc. C'est haro sur les conventions collectives, haro sur le code du travail, où tout va pouvoir se négocier au sein des entreprises par des accords entreprises. Alors, donc, ça, c'est complètement aberrant. Entre des syndicalistes. Et je donne de leçons à personne et je fais le ménage dans aucune organisation syndicale. Mais des syndicalistes qui ne feront pas leur boulot, d'autres qui signeront n'importe quoi, mais ce n'est même pas des couleuvres qu'on va leur faire avaler, c'est des boas. Et puis on va signer n'importe quoi, on va faire n'importe quoi et vous allez avoir. On va descendre les salaires en disant oui, voilà, il faut descendre les salaires de 15% parce qu'il y a des problèmes économiques dans l'entreprise, l'employeur a le droit de le faire. Maintenant, ça va être ça. Et puis, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, à n'importe quoi.
La dernière question qui peut paraître un petit peu étrange. Même au titre d'une boutade, le métier ou l'activité de conseiller prud'homal, est-ce un métier pénible?
Alors, conseiller prud'homal, ce n'est pas un métier, c'est un mandat que vous avez par votre organisation syndicale. Parce que, alors là, c'est pareil, on va pouvoir en mettre un coup à M. Macron quand même. Parce qu'à partir de maintenant, de l'année prochaine, avant, on était élus. Mais comme on avait un taux de participation aux élections qui était trop faible, on a supprimé les élections et ça passe sur la représentativité. C'est-à-dire, c'est en fonction des élections qu'il y aura par région dans les départements qu'on va plus maintenant élire les conseillers prud'hommes, mais on va les désigner. Chaque organisation syndicale, en fonction de cette représentativité, va désigner ses conseillers prud'homales. Donc, c'est un mandat que nous avons. Donc, le dernier mandat a été très long parce que suite aux élections, etc., on a prorogé. Et on arrivait à 9 années de mandat. Mais non, après, vous savez, ce n'est pas un métier. On n'est pas des carriéristes, on est des syndicalistes. On est délégué syndical, on est délégué au comité d'entreprise, au CHS ou dans un comité de groupe européen. On fait ça parce que c'est nos tripes, parce qu'on a envie d'être présent dans l'entreprise pour revendiquer, pour militer avec les travailleurs, etc., pour faire avancer. Et donc, pour moi, il n'y a pas de pénibilité, même si c'est fatigant. Mais derrière ça, on touche carrément l'humain et c'est magnifique.
Eh bien, je vous remercie, monsieur Thierry Philippot. Je rappelle que vous êtes on applaudit. Je rappelle que vous êtes ancien délégué syndical CGT de la société MREAL ou RIL, je sais pas.
Oui, voilà, MREAL.
MREAL, d'accord. Et qu'à présent, vous êtes conseiller au Prud'homme de Louviers. Encore merci.
Merci à vous.
Et voilà, nous venons d'écouter Just a Man with a Job de The Rex. Et tout de suite, on poursuit avec la petite cuisine d'Ozone.
Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer donc un dessert, vous allez voir, hyper facile et extra bon. Donc il s'agit de la panna cotta.
Oui.
C'est très simple à réaliser. Il faut prévoir un temps de préparation de 10 minutes et un temps de cuisson de 10 minutes.
Donc c'est une préparation rapide.
Oui. Les ingrédients, donc c'est pour 6 personnes. 50 centilitres de crème fraîche liquide.
50 centilitres de crème fraîche liquide. Donc ça fait grosso modo, ça fait deux fois, on sait de la crème liquide par flacon de 25 centilitres ou 50 centilitres. Donc deux fois 25 centilitres.
Ah oui.
Donc 50 centilitres. Bon.
À mettre dans le...
Dans la casserole.
D'accord.
Alors, après cette crème liquide, donc il nous faudra 50 g de sucre. Alors, 50 g, ça représente 5 cuillères de sucre.
Oui, là, je mets la crème...
Ouais.
Je mets la crème. Il faut allumer ou pas la plaque sous la...
Bah oui.
Tout de suite, ben ou
oui,
on mélange
ben oui, ben oui.
Il faut allumer tout de suite. Bon, c'est allumé ou c'est pas allumé hein, vous...
Bah,
je vais regarder. Je mets à combien?
Feu doux.
Un feu doux, me dit notre ami Tim. Donc, on va dire... Cuisson thermostat 3.
Voilà. Donc après le sucre donc de 50 grammes.
Attendez, passez vite, j'en suis à la crème pour l'instant.
Nous allons prendre deux feuilles de gélatine.
Oui, mais que nous avons remplacé par de l'agar-agar. Qui est mieux et...
C'est une algue, je crois. C'est une algue.
Une algue, oui. Ouais. Vous avez raison, c'était une algue. Qu'on trouve dans quelle mer? Dans la mer Atlantique ou mer Baltique?
Je ne sais pas.
Bon, donc vous m'avez dit 50 grammes de sucre.
Ça fait 5 cuillères à
soupe. Oui.
Soupe généreuse ou pas? 5. Et il faut remuer?
Oui.
D'accord. C'est du sucre de canne ou du sucre blanc?
Tu vois bien, c'est du sucre blanc.
Non, mais est-ce qu'on peut le faire avec du sucre de canne?
Je ne sais pas.
Ah, ça serait intéressant pour la suite, pour voir. Mais bon, on va déjà voir avec ceci. Mais vous voyez, 50 grammes de sucre, il faut maintenant mettre les... un sachet de 2 grammes de agar-agar.
D'agar-agar, oui.
Oui.
Vous mélangez donc avec...
Oui, je vais mélanger. Donc,
mélanger donc avec le lait et donc le sucre. Et ensuite, une fois donc l'agar-agar,
vous
voyez. Donc une fois que c'est bien mélangé,
vous voyez.
Donc on met une douille de vanille.
Ah, je crois qu'il faut fondre la vanille.
Non, il faut...
Il faut
la couper en deux.
La couper en deux, simplement. Il ne faut pas la fondre, la couper en deux. Faut.
Donc, il faut couper en deux la vanille. Une seule gousse.
Oui, il y a marqué une gousse, oui.
Une gousse, oui. Que je fonde.
Ouais.
Bon.
Après, il faut le mettre dans la casserole et laisser donc la mixture frémir.
Il faut le mettre dans la casserole, la gousse.
Bah,
on en entière, c'est ce que je veux dire. Pour la cuite que nous avons faite, on a recouvert pour que ça soit beaucoup bien mieux.
On a recouvert d'une assiette pour que ça puisse mieux cuire. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée. C'était un truc de grand-mère, une astuce de grand-mère ou pas? Une recette de grand-mère? Vous vous rappelez pas, oui, ça faisait pas de grand-mère. Oui. Ensuite.
Donc ensuite, il faut laisser donc partir donc à ébullition.
Oui.
Il faut bien remuer.
Oui. Ça chauffe, ça chauffe lentement, mais sûrement.
Et après? Après, donc, il faut longer l'ébullition, retirer la casserole du feu doux, bien remuer, donc, et verser dans ses coupelles, laisser refroidir, puis placer quelques heures au frigo pour faire prendre.
Quelques heures au frigo, donc d'accord. Et après?
C'est tout.
D'accord.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot. Allez, tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du
gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail. Faut être fou, moi le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail c'est la santé. Tu parles, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages. Je les ai vus. Pour se payer tout le confort, quand ils ont tout bas, ils sont morts. Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux.
Voilà, encore une fois, bande de feignants là.
Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver.
Eh bien oui, encore une histoire du narvalo comme tous les mois.
Les aventures du narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Il eût été une fois de plus, mais il est une fois de trop. Suite au maléficieux laissé en suspense dans l'épisode précédent, et face aux écrasantes chances de réussite de 97%, la désanglification fut un échec cuisant. Bouillant, poêlant, autocuisant, au bain-marie. Nous assistons à une épidémie à 97%, doublée d'une épisodie à 3%. La situation est gravement pathétique, comme une belle vérité courageuse et populaire. Par contre, la décomatification du narvalo est un succès à mettre au crédit de l'industrie cosmétique. Le veau, c'est bien.
Je sais que j'ai l'habitude de chanter sur les animaux, mais les costumes, c'était pas la peine. Voilà, moi, mon truc, c'est la félinoscatologie. À la limite, je peux faire un truc avec Arlette et sa peau douce de léopard.
Sa peau douce de cougar du...
Bougre de simili martien à la sauce tchouk-tchouk nougat. Avec tes jambes de gazelle, tu me cours toujours sur le haricot bleu.
J'ai le vertige mou du haut de mon cou mou, de girafe mou. Remarque, avec ma vision mou, panoramique mou, je peux voir mou que je ne suis pas mou, le plus mal loti mou.
En effet, il y a encore plus pire. Bob Renard a une trompe et des oreilles d'éléphant. Jacques Pervers a un cul de babouin et un sale caractère. Le narvalo est caméléon avec les yeux en coin. Poupette a conservé le groin et l'odeur et le bruit du marteau piqueur. Hashtag Jacques 2017. Et plus pire que plus pire, Yodin des 100% humaines est dépossédé de ses pouvoirs. Mais qui sonne à la porte?
Moi, Ronald Trumpet, ai-je fait ma forme ultime? Mi-homme, mi-éléphant mère. Je souhaite mettre le Nord great enfin. Dans mes mots tels Guillaumier de Loisir, je te proclame mon décret par ordonnance en 49,3 secondes, grant one, dorénavant, mais en plus sec comme le saucisson, et par effet de propagation immédiate et sèche comme une guitare dodécapode, l'entrée sur le territoire est formellement interdite, sous peine de mort sèche et irréversible, au moins de 100% humains, aux extraterrestres, aux sirènes, aux atlantes, aux femmes enceintes, et aux hommes enceints, aux pieds grecs et aux mains égyptiennes. Grand tout, a contrario, de l'inverse antiproportionnel de ce qui précède, la sortie du territoire est formellement interdite sous peine de remords humides et regrettables, aux blonds, aux yeux bleus de plus d'un mètre soixante, aux femmes pas encore enceintes, aux pieds rôdeurs et aux mains randonneuses, aux intraterrestres, aux licornes, aux lilliputiens, aux humains à plus de 100%, à ceux capables de regarder Hanouna sans jamais zapper.
Je m'y connais en dictature et ton truc manque diablement de précision géographique. Remarque, il y a de l'idée. Tout cela est bien séduisant. Tu parles de quel territoire, mon Ronald Daniel de nous, dis-nous.
Si c'est l'île de Ri, rien à foutre. J'ai pas la attention de mettre l'eau grouant et sinon. Je défense tout.
la géographie, c'est bien doux. Mais tes conneries, on s'en branle du...
De là-haut mou, votre planète mou, et toute petite mou. Vos discussions mou sur la géographie mou, c'est du flan mou.
Connaissez-vous la recette du flan? Ou du fion, comme on dit en Vendée?
Ah, le fion, ça me connaît, et pas qu'au niveau félin. Bon, alors, pour le fion, il vous faudra 375 mètres de farine, une trentaine d'œufs, un peu d'eau, sinon c'est trop sec, une pincée de sel de Guérande, une pincée de sucre de Guérande, de la cannelle de mer, et le tout se déguste froid.
Il ne s'agit absolument pas de l'île de Ré, mais de tout le reste.
Et qu'entends-tu par les restes? Je suis sûr qu'on peut faire plein de choses avec les restes, comme du pain perdu, du pain retrouvé, des petites cuisines d'ozone libre, du hachis parmentier. Alors aujourd'hui, on part sur quoi? Qu'est-ce qu'on interprète? Qu'est-ce qu'on sublime?
Bah, tant que ce ne sont pas des restes de Thanksgiving, tout va bien.
Les humains doux, c'est rien que les restes du...
Comme les ornithorynques mous, des assemblages mous de scories mous.
Pas du tout. Je parle des restes du monde, en dehors de l'île de Ré.
Bah, je comprends pas. Pourquoi l'île de Ré?
Sans raison. En tant que dictateur, je me devais d'avoir une lubie. Et il faut bien que les bombes servent à quelque chose.
J'ai toujours rêvé d'aller donc sur l'île de Ré. Né dans une famille pauvre, je n'ai jamais pu faire que du camping à Oléron, Islande. Allez, viens-y, on va faire un dernier tour, comme une revanche sur ma vie.
J'ai trouvé une super appli, le Cocarbusage, Blablabus. Il y a surtout des chauffeurs de bus, bon, qui ont perdu leur permis, mais qui savent toujours à peu près conduire.
Vas-y mou, clique mou.
Manquerait plus qu'un Cocarbus doux avec Émile, Louis du...
Ouais, j'ai trouvé un chauffeur qui a l'air sympa. Il s'appelle Louis Émile. Il a de bons avis sur l'appli. En tout cas, personne ne s'est encore plaint.
Louis Émile, voilà un nom bien engageant. Notre fine équipe, à 97% humaine, sauf Yodinv, et à 3% espèce menacée d'extinction par Darwin, sauf Yodinv, embarque dans un magnifique carbus, présidentiable, tuné, chromé avec toilette sur le papier du toit de la remorque. C'est parti pour l'aventure, la rigolade et des chansons de groupe du genre Louis, cité champion, appuie sur champignon. En moins de temps qu'il ne faut pour lire l'intégrale du Club des Cinq en bibliothèque verte, les voilà arrivés dans les odeurs d'embrun, de vases, de sel, de coquillages divers et variés, de perforas et de felinta, tête de tigre. Mais reverra-t-on seulement Fantomate, la préférée de Timothée? Lionel s'est-il vraiment retiré de la vie politique? En même temps, a-t-on vraiment envie de savoir ce qu'est devenu Jospin? Et va-t-on réussir à finir un épisode du Narvalo sans poser de questions? Pour le savoir, rendez-vous dans un mois, le jeudi 30 mars, à peu près à la même heure sur Principe Actif.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
À quoi pensez-vous si on vous dit travail pénible?
La mine, certains travaux dans le bâtiment qui pèsent des charges lourdes.
Un métier pénible que je n'aimerais pas faire.
Travail pénible, le travail comme ceux qui travaillent dehors, les couvreurs, les maçons, les choses comme ça, quoi. Les coiffeuses aussi, parce que c'est pas dehors, mais c'est un travail difficile aussi. Elles sont toujours debout toute la journée. Enfin, il y a beaucoup de travail difficile, à mon avis, hein, quand même. Hein.
J'ai fait du travail pénible en tant qu'agricultrice. Bon, maintenant, c'est plus modernisé, mais dans notre temps à nous, c'était très... On faisait encore beaucoup, beaucoup à la main.
Travailler en usine. Et puis les gens qui sont sur les chantiers en hiver.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les conditions de travail?
Je vais pas dire les robots parce qu'ils vont vous remplacer. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même eu déjà des progrès de fait. On a obligé les gens qui travaillent à déjà prendre des protections, à mettre des protections. Hein, donc malgré tout, par exemple les routiers, j'ai pas pensé, mais c'était aussi un travail pénible qui s'est bien arrangé parce que maintenant ils sont obligés de s'arrêter, de faire des pauses. Donc là, il y a la pause, il y a le fait de ne pas maintenir ou de changer de genre de travail. Bon, ce qui est aussi pénible, je pense, par exemple, c'est les 3-8. en particulier quand on fait les nuits. À la limite, je pense, hein, il vaut mieux faire ou de jour ou de nuit, mais le problème, quand vous tournez les 3-8 et que ça change comme ça, ça casse votre prix.
En réfléchissant avec eux et en étant à leur écoute, en fait, c'est un point super important. On demande des tâches à des gens sans réellement se préoccuper de savoir si la façon dont ils le font est la meilleure façon de le faire. On ne se pose pas de questions, ils le font. Et derrière, voilà, il peut y avoir des conséquences physiques, des conséquences psychologiques, etc. Le seul moyen de les améliorer, c'est de discuter avec ces gens qui le font pour voir comment est-ce qu'on peut adapter des outils, comment est-ce qu'on peut adapter leurs propres conditions pour faire en sorte que ce travail devienne moins pénible.
Les patrons, plus on en fait, plus il faut en faire, je pense. Hein. Je pense que c'est un petit peu ça. Hein.
Oui, s'améliorer, rien que la traite des vaches, on faisait à la main, que maintenant il y a les machines.
Donc c'est en fait, déjà... c'est les machines, quoi.
La machine, bah, comme partout, hein, que ce soit en agriculture ou en usine, c'est les machines qui remplacent tout. Hein. Donc il y a moins de pénibilité quand même. Encore des métiers pénibles, mais bon, c'est quand même amélioré et ça pas un mal.
Malheureusement, dans ces métiers-là, il faut des gens qui interviennent dans ces métiers-là, donc c'est pas évident. On peut pas les supprimer. Ou faire travailler ces gens-là moins de temps, avoir la retraite plus tôt, des choses comme ça.
Le métier le plus pénible et le métier le moins pénible.
Je voudrais pas être obligé aujourd'hui de lever des charges lourdes trop longtemps. C'est le même problème dans la santé, par exemple, ceux qui... je vois les infirmières qui vont faire 10 heures consécutives, avec un décalage la fois suivante et tout. Ce qui est pénible aussi, c'est ça, c'est de casser les rythmes. Terrassiers.
Pour moi, le métier le plus pénible que je connaisse, c'est vraiment celui de manœuvre sur un chantier. C'est le métier le plus ingrat, parce que c'est l'homme à tout faire. Je pense que il y a des métiers comme celui des gouttiers qui ne doivent pas être très agréables à faire non plus, parce qu'on est dans un environnement qui n'est pas des plus amusants. Gardien de prison peut-être aussi, ça doit être un métier difficile parce qu'on est face à une réalité sociale. Je pense que celui d'assistante sociale aussi, parce que là on est face à une misère sociale. Voilà, enfin, il y a différents types de niveaux, ça peut être une pénibilité physique ou psychologique.
Et les métiers les moins pénibles que vous connaissez?
Rentier. Je pense que tous les métiers ont leur pénibilité, mais je pense que celui de ne rien faire, et celui-là est un métier qui n'est pas pénible.
Alors les plus pénibles, bah oui, j'ai dit tout à l'heure, pour les hommes, les maçons, les couvreurs, les boulangers, les bouchers, les charcutiers, tout ça, ce sont des travaux pénibles. Pour les femmes, bah, y a des travaux pénibles aussi, pour les femmes. Hein, parce que bon, les femmes, la coiffure, c'est un travail qui est difficile, je trouve, quand même. Hein, debout toute la journée, à piétiner, je trouve que c'est dur aussi. Hein, mais y en a d'autres, ça ne me vient pas à l'idée comme ça, mais il y a d'autres travaux pénibles aussi pour les femmes. Hein. Les travaux les moins pénibles que je connaisse. Pour les hommes, peut-être, peut-être dans les bureaux, c'est peut-être moins pénible quand même, non?
C'est ceux qui travaillent dehors par tous les temps, quoi. Charpentiers.
Les ouvriers.
Oui, tous les ouvriers du bâtiment. Hein.
Du bâtiment.
Ah, bah oui.
Hein. Travailler, c'est trop
vous,
dur, mais voler,
c'est
pas bon. Chaque matin, il faut se lever. Se lever pour faire quoi? D'autres pour aller travailler, mais d'autres ne savent même pas quoi faire de leur journée. J'ai entendu parler de pénibilité au travail, mais que faire face à cette situation pénible? Pour moi, travailler devrait être un facteur de bien-être et de stabilité plutôt que d'être un facteur de maladie. Cherchons à améliorer les conditions de travail pour ne plus qu'on parle de pénibilité au travail et pour que tout le monde y trouve son aise.
Pour la minute du pôle, on a voulu décaler un petit peu avec une poésie pour se détendre. Je ne suis pas sûr que le résultat soit à la hauteur de nos espérances. C'est un extrait de parole de Jacques Prévert. Oui, je fais gaffe. L'effort humain n'est pas ce beau jeune homme souriant, debout sur sa jambe de plâtre ou de pierre, et donnant grâce aux puérils artifices du statuaire l'imbécile illusion de la joie de la danse et de la jubilation, évoquant avec l'autre jambe en l'air la douceur du retour à la maison. Non, l'effort humain ne porte pas un petit enfant sur l'épaule droite, un autre sur la tête et un troisième sur l'épaule gauche, avec les outils en bandoulière et la jeune femme heureuse accrochée à son bras. L'effort humain porte un bandage hernière et les cicatrices des combats livrés par la classe ouvrière contre un monde absurde et sans loi. L'effort humain n'a pas de vraie maison, il sent l'odeur de son travail et il est touché au poumon. Son salaire est maigre, ses enfants aussi. Il travaille comme un nègre et le nègre travaille comme lui. L'effort humain n'a pas de savoir-vivre, l'effort humain n'a pas l'âge de raison, l'effort humain a l'âge des casernes, l'âge des bagnes et des prisons, l'âge des églises et des usines, l'âge des canons. Et lui qui a planté partout toutes les vignes et accordé tous les violons, il se nourrit de mauvais rêves, et il se saoule avec le mauvais vin de la résignation, et comme un grand écureuil ivre, sans arrêt il tourne en rond, dans un univers hostile, poussiéreux et bas de plafond. Et il forge sans cesse la chaîne, la terrifiante chaîne où tout s'enchaîne, la misère, le profit, le travail, la tuerie, la tristesse, le malheur, l'insomnie et l'ennui. La terrifiante chaîne d'or, de charbon, de fer et d'acier, de mâche-fer et de poussière, passée autour du cou d'un monde désemparé. La misérable chaîne où viennent s'accrocher les breloques divines, les reliques sacrées, les croix d'honneur, les croix gammées, les ouistiti porte-bonheur, les médailles des vieux serviteurs, les colifichets du malheur et la grande pièce de musée, le grand portrait équestre, le grand portrait en pied, le grand portrait de face de profil à cloche-pied, le grand portrait doré, le grand portrait du grand divinateur, le grand portrait du grand empereur, le grand portrait du grand penseur, du grand sauteur, du grand moralisateur, du digne et triste farceur, la tête du grand emmerdeur, la tête de l'agressif pacificateur, la tête policière du grand libérateur, la tête d'Adolf Hitler, la tête de Monsieur Thiers, la tête du dictateur, la tête du fusilleur de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la tête odieuse, la tête malheureuse, la tête à claque, la tête à massacre, la tête de la peur.
Eh bien oui, nous concluons péniblement cette émission de Zone Libre sur le thème du travail, que vous connaissez peut-être, et vous espérons plus enclin à accepter toutes les propositions de votre employeur. L'esclavage, oui, mais dans la joie et l'allégresse. Nous remercions encore notre invité, Thierry Philippot, d'avoir bien voulu répondre à nos pénibles questions et sans torture. Nous vous remercions, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir supportés. Nous remercions également l'équipe de Zone Libre, une équipe haute en couleurs et en mots. Et nous remercions la masse laborieuse de Principes Actifs, le représentant du patronat JC, le contremaître Damien et l'OS Timothée. Le dicton du jour, pour prendre le train, lève-toi et marche pied. Prochaine émission le jeudi 30 mars dès 12h30. En attendant, vous pouvez nous réécouter en podcast sur la page Ozone Libre du site de Principes Actifs.
Écoutez bien. Ozone, O3, gaz, 3 mm d'épaisseur, environ 300 d'opson.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre,
le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.